Cours musical de Radio Notre-Dame. L'agenda musical, vivre la musique, une émission présentée par Éditeur.
Bonjour chers amis auditeurs, aujourd'hui je reçois Marianne Bourges. Marianne Bourges qui se soucie de l'éveil musical de vos enfants, ô combien. Marianne Bourges, j'aime la musique, le jardin féerique de Maurice Ravel. Vous êtes venue avec ce livre sur la musique, sur Ravel. Et puis, vous êtes venu aussi avec ce même livre sur Jean-Sébastien Bach. Alors, on va parler évidemment de ces livres qui s'adressent à nos bambins, et nous le disions en micro aussi aux adultes. Et puis, également, de tout ce que vous faites pour que les petits-enfants de France puissent aimer la musique.
Bonjour Edith. Alors, par où commencer ?
Alors, on va commencer vraiment, parce que c'est quand même le centre de cette émission.
Par les livres, par les nouvelle collection J'aime la musique, donc proposée par les éditions Bayard, qui est en fait dans le même esprit que le fameux J'aime lire que beaucoup d'enfants ont dans leur bibliothèque. Donc, J'aime la musique, bah oui, d'abord aimer la musique. À travers évidemment l'œuvre d'un compositeur, dont j'évite tout de suite de dire qu'il est le père d'une famille nombreuse, ou qu'il a eu trois femmes, ou qu'il a été malade de telle maladie.
Enfin, voilà.
parce que c'est d'abord la musique. Et de leur permettre de rentrer dans ce monde musical, ces couleurs, et puis aussi progressivement, à travers les œuvres, à travers l'histoire que je raconte de cette vie, de l'homme ou de la femme, peut-être, que j'évoque, c'est de relier à l'histoire de l'époque de vie du compositeur, à des artistes qui ont vécu aussi autour de lui, des événements historiques importants, de manière à ce que cette musique ne soit pas uniquement un bain sonore, qui est déjà extraordinaire, mais qui soit aussi un moyen d'avoir comme un panorama de vie, d'un temps d'histoire pour l'enfant, l'adulte aussi, car c'est, comme vous le disiez, beaucoup d'adultes profitent de ces disques qu'ils partagent avec leurs enfants ou petits-enfants et qui, tout d'un coup, prennent conscience de tout un univers, au-delà de l'univers sonore du compositeur.
Oui, votre ambition est grande. C'est-à-dire qu'il est évident que ces compositeurs ne grandissent pas et ne composent pas seuls, ignorants de tout ce qui est autour d'eux. Ils en sont complètement imprégnés et ce qu'ils créent est le résultat de ce qu'ils ressentent d'une époque, et puis ce sont des visionnaires de ce qu'ils imaginent, de ce qu'elle va devenir.
Absolument.
Et ça, écoutez vraiment, Marianne, je crois que vous êtes la seule à vous dire que c'est important, quand vous parlez de Ravel, de dire à côté tout ce qui s'est passé en peinture.
C'est parler des expositions universelles, c'est parler de ces voyages qui effectués en Asie, ces découvertes de nouvelles sonorités, de nouvelles cultures. Aujourd'hui, on parle de la même chose. Et nos compositeurs d'aujourd'hui ont finalement la même démarche, se nourrir des autres, c'est l'altérité, c'est essentiel pour le progrès, pour le devenir, pour l'enrichissement de chacun, dans un sens comme dans l'autre. Quand tous les compositeurs espagnols sont venus à la fin du 19e à Paris, c'est Ravel, c'est Debussy, Chausson, qui s'en sont nourris aussi. Donc tout ça, c'est vrai, c'est lié à une époque, et ça me semble fondamental que d'en prendre conscience, non seulement d'en prendre conscience pour quand on évoque un personnage, mais aussi par rapport à ce que l'enfant est aujourd'hui, comment il vit et ce qu'il va pouvoir faire de ce qu'il reçoit.
La télévision est au courant de tout ce qui se passe.
Mais justement, que faire avec tout ça ?
Oui, absolument. Alors, je feuillette votre livre de musique en même temps. Comment se présente-t-il ? C'est un livre qui est facile à manier, qui est délicieusement illustré, avec votre texte et comme toute façon, vous avez reçu pas mal de dons déjà à la naissance, mais en plus, vous avez affiné, développé, puisque vous racontez la musique aux enfants depuis des années, donc vous savez magnifiquement en parler. Et ce texte est joli par sa langue, par son style, et puis par tout ce qu'il contient. Vous avez essayé, si on prend le cas par exemple de Ravel, Ravel, c'est un petit livre, il y a combien de pages? Bon, vous savez pas.
Je ne sais plus. Oui, je crois qu'on est autour de la 60, 50.
Non, 41.
Oui, on oscille à peu près dans ce format-là. Et au niveau du disque,
s'il était trop important, il rebuterait.
Peut-être. Et le disque, c'est une écoute qui est autour d'une heure, 1h10. On est dans entre 60 et 70 minutes d'écoute.
Voilà, et le disque est incorporé.
Absolument. Et le disque, en fait, reprend le texte qui est écrit. C'est donc moi qui le lis, qui le raconte, et à travers ce texte viennent s'imbriquer, se lover tous les extraits musicaux que je sélectionne de manière à faire écho, à répondre, à rebondir, à illustrer, à surprendre. Donc c'est toute une fresque texte et musique. Il y a aussi certains passages qui sont expliqués pour que l'écoute soit plus...
plus approfondi.
Voilà, plus approfondi. Alors, par exemple, dans celui de Ravel, on explique la valse avec cette entrée progressive des instruments. Très souvent, d'ailleurs, comme...
explique la valse, mais on dit aussi
son contexte
à quel moment, gravissime.
Bien sûr, de la guerre de 14-18.
Voilà.
Justement, je pense que c'est très important que les enfants prennent conscience, comme vous le disiez, de la manière dont les artistes vivent les événements d'histoire et qui touchent leur création. Dans la peinture, certains ne pouvaient plus peindre, d'autres ont totalement transformé leur technique picturale. Dans la musique, c'est pareil. Donc, on entend l'histoire.
On entend l'histoire. Si on prend par exemple les titres, Le monde féerique, Des rêves d'Asie, Une musique scintillante, qu'est-ce qui diffère de votre livre musique des autres? C'est que les autres en général, bon, il y en a qui sont très bien faits, où en effet on essaie d'expliquer la musique de Chopin, la musique d'autres compositeurs, mais on reste sur la musique. Alors que là, non seulement ce que vous faites, et ce qui est évident, c'est que vous replacez ça dans un contexte social, artistique et autre, mais pour l'enfant, ça a déjà un écho immédiatement, parce qu'il a déjà entendu parler de cela. Mmh. C'est ça, votre...
L'objectif, c'est effectivement de faire résonner chez l'enfant... Tout dépend l'âge, bien sûr, mais déjà des petits sujets abordés à l'école ou en famille qui d'un seul coup prennent une place différente et qui résonnent et ensuite qui peuvent se développer en fonction du compositeur dans le prochain autour de Chopin. On parle aussi de la situation de Paris au moment où Chopin arrive. C'est découvrir que c'est la même époque, la même période où fut construite la Madeleine ou ériger la Concorde. Donc ce sont des moments de vie associés à des compositions.
C'est le mieux, Marianne Vourche, c'est que on écoute par exemple le début de votre livre Le jardin féerique de Maurice Ravel dans cette collection J'aime la musique. Je propose que je ne vous dis rien d'autre, chers auditeurs, on écoute un monde féerique, et évidemment c'est Marianne Vourche qui vous le raconte.
Le jardin féerique de Maurice Ravel. Sa musique est drôle et parfois sérieuse. Elle nous parle de théière et d'horloge, de petits écureuils et de la belle et la bête, mais aussi de valses qui font peur, d'amis perdus à jamais, de cloches qui résonnent dans la vallée. Elle évoque un monde merveilleux et lointain. Mais qui est-il? Si vous êtes curieux, alors restez avec moi. nous allons ensemble ouvrir les grilles du jardin féerique de Maurice Ravel. En écoutant la musique de Maurice Ravel, tout brille, tout scintille comme les éclats d'un diamant. L'orchestre est une pierre précieuse, ciselée, aux mille reflets multicolores. C'est l'Aidronette, impératrice des pagodes, que nous écoutons. Une musique aux couleurs d'Orient, dans laquelle Ravel crée des sonorités étranges qui nous font voyager. En 1889, à l'Exposition universelle de Paris, Maurice Ravel découvre un instrument très étonnant, le gamelan javanais. Dans plusieurs de ses œuvres pour orchestre, il a cherché à traduire des atmosphères lointaines, exotiques, fascinantes. Pour obtenir ces sonorités nouvelles, le compositeur détourne parfois l'utilisation habituelle de certains instruments. Il utilise, par exemple, le xylophone, le tam-tam, le célestin. Maurice Ravel emprunte à la musique chinoise une gamme particulière, la fameuse gamme pentatonique. Elle a 5 notes au lieu de 7. Par exemple, les 5 touches noires du piano. Fa, Sol, La, Do, Ré. Mais retrouvons les dronettes. Des secrets comme des petits masques cachés dans sa musique qui vous permettent de rêver l'Asie. Comment Maurice Ravel fait-il pour écrire cette musique si imprégnée de senteurs nouvelles, de sons étranges et charmeurs, de mélodies envoûtantes, alors qu'il vit à Paris? Lorsque Ravel compose cette musique, seules les expositions universelles ou les rencontres avec les grands voyageurs permettent de découvrir ces pays que l'on connaît peu, car il est encore bien difficile de s'y rendre. Aussi, les uns et les autres partagent leurs découvertes avec leurs amis artistes. Les poètes transforment ce qu'ils entendent en poèmes, les peintres en couleurs, en arabesques, les musiciens en sons et rythmes fascinants, mais aussi en couleurs musicales. Comme les artistes de son temps, Maurice Ravel est fasciné par l'exotisme et l'Orient. Son orchestre est peuplé de voix nouvelles.
C'était un extrait du livre « J'aime la musique » de 7 ans à 97 ans. Vous auriez dû dépasser la centaine maintenant. Bon, Marianne Bourges. Et le jardin féerique de Maurice Ravel est sorti chez, on peut dire, chez Bayard, mais je vois Bayard nulle part.
Pardon, chez Bayard, oui, chez absolument, Bayard. En partenariat avec Harmonia Mundi et ah Radio oui. Classique.
Et où est-ce qu'on le vend alors?
Alors, on le trouve à la FNAC, sur Amazon et puis dans toutes les librairies.
Voilà, vous avez beaucoup de chance de le rencontrer si vous êtes un tout petit peu curieux. Ça, c'est donc le jardin féerique. J'aimerais que vous nous racontiez maintenant ce que vous faites. On écoutera une autre partie de ce jardin de Maurice Ravel. Mais j'aimerais que vous nous racontiez tout ce que vous faites pour les enfants, parce que c'est tellement étonnant. Et s'il y a encore des parents qui se disent « qu'est-ce que je pourrais faire pour que mon bambin ait envie de découvrir la musique ?» Eh bien, Marianne Bourges va vous raconter.
Alors, je présente effectivement les concerts du mercredi. Je propose ces concerts aux familles, avec les enfants, et puis aussi aux écoles, primaires, collèges et lycées, puisque ce sont des concerts où je raconte, j'explique la musique, les œuvres, et j'essaie toujours de choisir des programmes qui soient en lien avec ceux de l'éducation nationale, de manière à ce que ces temps prennent vie dans le parcours des enfants, des adolescents, et qu'ils ne soient pas uniquement un temps musical où finalement la distance entre l'œuvre et l'enfant perdure. Bien sûr, il va ressentir des émotions, il va potentiellement trouver ça beau ou peut-être ne pas aimer.
Mais il sera particulièrement là, concentré voilà. Et attentionné que vous aurez fait appel à d'autres
D'autres vecteurs, d'autres paramètres dont, par lesquels il va se sentir concerné. J'ai vraiment à cœur, et de plus en plus, que ces temps soient une façon pour eux de recevoir comme
un cadeau.
Vous comme présent, un présent un artistique qui est oui, un temps est un vrai de vie, cadeau. Mais dont il va pouvoir se servir.
Voilà, c'est pas du tout uniquement avec une œuvre d'art.
Et cette appellation, on aimerait plutôt...
Oui, les tableaux Louvre, on les laisse au Louvre. Quand on est sorti, on n'en part pas avec.
mais là, on est chargé de son, on est chargé de liens avec d'autres œuvres, parce que je propose ces concerts toujours accompagnés de diaporamas, où je projette soit des portraits de personnages dont je parle, que ce soit des auteurs, des écrivains ou des hommes politiques ou d'autres œuvres artistiques de peinture pour illustrer donc le sujet. Ça peut être aussi des textes, des lettres et tout cela pour qu'en fait, voilà, on soit vraiment dans la vie et que surtout, c'est ce que j'ai à cœur, qu'ils comprennent que ce que je leur donne, ils le reçoivent et qu'eux ensuite vont pouvoir le partager. Mais pour cela, il faut qu'ils sachent comment s'en servir. Quand on parle en Sébastien Bach, on ne peut pas toujours dire c'est merveilleux, c'est superbe, ça suffit pas. En revanche, cette construction, cette discipline, cette liberté absolue au sein de la maîtrise de la règle, ça peut déjà commencer à parler. Quand vous faites des maths, vous vous dites « je suis obligée d'apprendre un certain nombre de règles, mais une fois que je possède toutes ces règles, je suis libre parce que je vais pouvoir effectivement créer d'autres algorithmes, etc. » Donc il y a vraiment un lien qui peut se tisser.
Ce qui est important, c'est de dire où vous lancez cette parole tellement constructive et tellement riche sur la musique, dans quel lieu, à quelle heure, des détails, alors, des informations
oui,
très précises.
Les concerts ont lieu au Collège des Bernardins, dans le 5e arrondissement.
Des Bernardins, pour que mes auditeurs aient le temps de...
Donc c'est 20 rue de Poissy, dans le 5e arrondissement.
20 rue de Poissy, oui.
Les concerts ont lieu à 15h.
15h. Alors, moi, j'ai un enfant, je vais l'emmener. Je vais donc au 20 rue de Poissy. Je rentre dans le Collège des Bernardins. Rien que ça, déjà,
oui,
ça vaut la peine.
Exactement.
C'est si beau.
C'est absolu. Mais quand je reçois toutes les écoles, parce que les familles, en général, ils viennent accompagner des parents ou des grands-parents. Donc, il y a déjà un petit cérémonial. Donc, ils sont plutôt bien disposés. Mais ce qui est fascinant, c'est les écoles qui viennent de tout Paris. Sans restriction aucune, ces concerts sont ouverts absolument à tous. Quand ils pénètrent au sein du Collège des Bernardins, il y a déjà quelque chose qui opère.
Sûrement.
Donc c'est un ensemble et j'en suis très heureuse et toute l'équipe qui accueille ces concerts partage cette grande joie de faire vivre ces concerts.
C'est magnifique parce que vous êtes partie au départ, je ne dirais pas modestement, mais quand même rue du Rocher, où c'était quand même...
C'était une petite salle, mais qui était très mignonne. Les gens l'aimaient beaucoup.
Non, mais tout ça a été charmant. Je veux dire, oui. Mais de là à avoir toutes les écoles qui viennent dans le collège des Bernardins, bravo.
C'est une belle aventure.
Ça prouve le succès que vous avez auprès des parents, des enfants et de ceux qui... dirige ces institutions.
Vous savez, je crois que quand on transmet le beau et le vrai, on ne peut pas vraiment
se tromper. Oui. Oui, une adhésion. Donc, c'est à 15h, ça ne coûte pas une fortune.
Alors ça, je ne sais jamais. C'est 10 ou 12 euros en fonction enfant ou adulte. Voilà.
Voilà.
Et puis, je crois que le mieux, c'est quand même soit d'aller sur le site pour avoir les dates.
Enfin, cela c'est étant, évidemment 3W au départ.
Oui. On peut sans doute dire la date du prochain concert, qui est le mercredi 29 mars.
On va tout dire, mais là, donnez le site, puisqu'on donne
les
informations.
Pour les concerts du mercredi, les 3W, effectivement. Oui. 3W, point, tout attaché en minuscules, les concerts du mercredi, point,
je prends le temps d'écrire les concerts au pluriel du mercredi, tout ça, tout attaché. Voilà, j'ai fini.
.com.
Voilà,
les concerts et là, toutes les informations, le téléphone, où ils pourront aussi avoir les détails nécessaires.
Le prochain.
Donc le prochain, c'est justement autour de l'offrande musicale de Jean-Sébastien Bach.
Alors, offrande musicale, ce livre que vous avez amené, ce disque que je ne connaissais pas, que je vais découvrir en même temps que mes auditeurs.
Oui, alors peut-être que je peux rajouter un petit détail justement sur ces livres. On a parlé du Jardin féerique de Maurice Ravel. Maintenant, l'offrande musicale de Jean-Sébastien Bach. Le prochain à sortir, ce sera La note bleue de Frédéric Chopin. En fait, je me sers du titre d'une œuvre. Alors, chez Chopin, ce n'est pas possible, parce qu'il ne donnait pas de titre à ses œuvres. Mais je prends une œuvre, et c'est en ouvrant la porte de cette œuvre-là que je pénètre l'univers du compositeur pour refermer. Je raconte cette histoire, mais en même temps, voilà, c'est plein d'histoires à l'intérieur d'une histoire. Donc, il y a tout un cheminement, d'où le Jardin féerique et l'offrande musicale, cette œuvre absolument sublime que Jean-Sébastien Bach a composée suite à cette visite à Frédéric II de Prusse, qui lui a lancé un véritable défi. Et on découvre tout l'humour et le génie absolu de Jean-Sébastien Bach à travers ces fameux canons. Alors, le prochain, donc, autour de l'offrande, c'est le mercredi 29 mars à 15h.
29 mars à 15h. On ne lâche pas tout de suite Ravel. Moi, je propose qu'on écoute une autre partie, un petit peu plus loin dans ce livre musique, Le Jardin féerique de Maurice Ravel, raconté par vous, Marianne Vourche. Et j'ai choisi un extrait du Gaspard de la nuit, Ondine. Puis après, on écoutera la valse, c'est Alexandre Tarot qui en est l'interprète. On écoute Ravel.
C'est au piano qu'un poète des sons trouve souvent les plus belles rimes. Maurice Ravel aime frôler les touches de son piano à la manière d'un explorateur. Mais il aime aussi palper, manier et pétrir sa musique, la faire couler dans ses mains. Ainsi, dans son poème « Ondine », il fixera pour toujours les cristallines résonances. Écoute, écoute, c'est moi. C'est Ondine qui frôle de ses gouttes d'eau les losanges sonores de ta fenêtre, illuminée par les mornes rayons de la lune. Et voici, en robe de moire, la dame châtelaine qui contemple à son balcon la belle nuit étoilée et le beau lac endormi. Chaque flot est un ondin qui nage dans le courant. Chaque courant est un sentier qui serpente vers mon palais. Et mon palais est bâti fluide au fond du lac, dans le triangle du feu, de la terre et de l'air. Écoute, écoute, mon père bat l'eau coassante d'une branche d'aulne verte, et mes sœurs caressent de leurs bras d'écume les fraîches îles d'herbe, de nénuphars et de glaïeuls, ou se moquent du saule caduc et barbu qui pêche à la ligne. Sa chanson murmurée, elle me supplie de recevoir son anneau à mon doigt pour être l'époux d'une ondine et de visiter avec elle son palais pour être le roi des lacs. Et comme je lui répondais que j'aimais une mortelle, boudeuse et dépitée, elle pleura quelques larmes. Elle poussa un éclat de rire. S'évanouit en giboulée qui ruisselèrent blanches le long de mes vitraux bleus. Aimer la musique de Ravel, c'est aussi comprendre son époque. Maurice Ravel est né en 1875 à Cibourg, au Pays Basque, et il meurt à Paris en 1937. Il vit donc la fin du XIXe siècle et le début du XXe. La Première Guerre mondiale est aussi l'épreuve de toute une population. Et au-delà de son horreur, elle va bousculer beaucoup d'habitudes dans la vie des femmes et des hommes, tout comme dans celle des arts. Pensons aux peintres Pablo Picasso, Henri Matisse, Maurice Denis, Auguste Renoir ou Fernand Léger. Mais aussi à Paul Claudel, l'écrivain. Sans oublier le poète Guillaume Apollinaire. Parmi les compositeurs contemporains de Maurice Ravel, nous retrouvons Igor Stravinsky, Claude Debussy ou Camille Saint-Saëns. Mais il y a aussi beaucoup de découvertes qui auront lieu durant cette tranche de vie du nouveau siècle. L'aviation, l'automobile, la radio, c'est incroyable! Vous venez d'entendre le début de la valse de Maurice Ravel. Écoutons ensemble à nouveau. Nous ressentons une drôle d'impression. Comme si cette valse était ensevelie sous terre et tâchait péniblement de s'extraire. Tout d'abord, un tremblement ondulant dans une nuance pianissimo. Puis s'ajoutent les pizzicati des instruments à cordes, des contrebasses qui ont mis leur sourdine, puis les violoncelles, la première harpe et les timbales. Sur ce grondement, les bassons tentent d'émerger. Suivi des violons, des altos et les cors. Voilà, tout s'organise. Les instruments survivent à cette atmosphère morbide pour donner vie à cette valse qui, peu à peu, surgit des décombres. Maurice Ravel rend ici hommage au grand maître viennois de la valse, Johann Strauss. Puis, grandiose et brillante de mille feux, cette valse nous emmène dans un palais impérial. Nous sommes en 1919, dans les décombres de la Grande Guerre. Maurice Ravel a aussi perdu sa maman. Je suis affreusement triste. Elle n'est pas là, à côté de moi. Mais il n'en dira pas plus sur ce monde bouleversé, meurtri par la guerre. Il va l'écrire dans sa musique. Car soudain, le vertige s'empare de cette valse. C'est une course folle vers la fin d'un monde. Une valse fatale et fantastique.
un extrait de ce livre consacré à Ravel, « J'aime la musique », de 7 ans à 97 ans, « Le jardin féerique » de Maurice Ravel. Et on va passer maintenant à l'avant-dernier, puisque le dernier va être Chopin, le « J'aime la musique » consacré à Jean-Sébastien Bach. Alors ça, c'était quand même plus difficile, plus austère, parce que Jean-Sébastien Bach, c'est magnifique, mais déjà, c'est plus loin, c'est le 18e siècle, et puis c'est aussi plus austère, c'est du génie pur, d'une beauté sans fin, grande comme le ciel, mais pas facile d'en parler.
Non, et en même temps, je crois que déjà tout se dit dans sa musique. Je vais vous dire, j'aborde en fait un compositeur ou une œuvre, très souvent c'est parce que moi-même j'ai envie d'en savoir plus et de ressentir sans doute des choses que je n'avais pas forcément éprouvées. Et de rentrer dans le monde de Jean-Sébastien Bach, j'ai exulté. Mon fils qui est violoniste m'entendait littéralement chanter dans mon bureau pendant que j'écoutais. En fait, c'était une ivresse absolue de revivre toutes ses œuvres. Donc en fait, je crois que le terme austérité, je crois que je ne le trouve plus.
Bon.
Mais plutôt plénitude et joie divine. Et j'ai voulu très vite aborder Jean-Sébastien Bach, justement pour ne pas le laisser, pour ne pas le mettre derrière en se disant « Oh là là, celui-là, ça va être compliqué ». Il n'y a pas d'âge pour moi, déjà, par rapport au choix des compositeurs, mais il me semblait que très vite aborder Jean-Sébastien Bach, c'était finalement poser des fondations. Des fonctions et qui nous permettent maintenant de nous sentir très libres parce que Jean-Sébastien Bach, quand on écoute ses suites, je dis que c'est comme le mouvement d'une rivière, quand le Omnes Generationes qu'on écoutera tout à l'heure, je voulais faire comprendre aux enfants que cette musique si lointaine dans le temps avait en fait inspiré chaque jour de leur vie, Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy. Donc,
ouais, c'était vraiment le grand modèle.
Le grand modèle. Mmh. Et encore aujourd'hui, on écoute Jean-Sébastien Bach. Oui. Et les suites pour violoncelle, que vous soyez petit, grand, que vous connaissiez ou non la musique.
C'est plus difficile. Je ne suis pas absolument de votre avis. Si on dit à un enfant, écoute les suites de violoncelle.
Mais je les ai déjà proposées. Oui. Je vous interromps.
Mais parce que vous parlez, parce que j'étais à vos présentations, parce que ça ne dure jamais très longtemps. un enfant qui met le 10 des suites pour violoncelle
non,
de Jean-Sébastien Bach.
Non, pas toutes les suites immédiatement. Je suis d'accord. D'accord. Pas dans la marmite intégrale immédiatement. Mais justement,
la musique, que ce soit la musique de chambre, que ce soit la musique sacrée, vraiment, que ce soit ses passions, que ce soit la messe en si mineur, que ce soit c'est le génie à l'état pur, et que ce soit le cap samien tempéré, c'est le génie à l'état pur. C'est
voilà. Mais derrière, en fait, toutes ces œuvres, il y a quelque chose. Il y a un temps de sa vie, il y a un espace de sa personne, il y a.
Et du temps où il a vécu.
Du temps où il a vécu, c'était
vous,
quand même...
Vous m'avez dit que Gilles Cantagrel avait beaucoup apprécié. Gilles Cantagrel vient souvent dans cette radio. Et c'est vraiment une chose qui a beaucoup frappé Gilles dans les milliers de pages qu'il a écrites sur Jean-Sébastien Bach. C'est le reflet de ce temps qui est tellement différent du nôtre. Où il y avait vraiment une vie intérieure par rapport à beaucoup moins de sollicitations extérieures.
C'est vrai que dans l'exemple de Jean-Sébastien Bach, on retrouve toute cette intimité des familles, toutes ces réunions familiales où ils chantaient entre eux, voilà. Où ils se réunissaient autour de textes et de musique, c'était leur quotidien. Et c'est vrai qu'on retrouve quand même cela beaucoup dans la culture allemande encore aujourd'hui, qui peut nous sembler lointaine pour certains d'entre nous, mais qui est très douce. Alors on peut sembler un peu mièvre d'évoquer de la douceur ou de la beauté, je crois que c'est juste si ça existe, pourquoi le refuser? Ça
ne
nous empêche pas d'être plus fort. Au contraire, voilà, c'est surtout ça, c'est que d'un seul coup, même si c'est très court, et c'est ce qui est dans le livre, ce sont des extraits. Ils ne vont pas d'un seul coup écouter toute la passion selon Saint Matthieu, que je rassure les auditeurs.
Non, d'ailleurs, moi, je ne sais pas ce qu'ils vont entendre parce que je ne l'ai pas entendu. Vous êtes venu avec, c'est vous qui avez choisi. Mm. Et qu'est-ce qu'on va entendre alors?
Alors, c'est vrai que donc, je parlais de ce quotidien avec Bach pour les compositeurs Mozart, Beethoven. Et donc, j'avais justement envie de dire, vous, aujourd'hui, est-ce que vous écoutez Bach? Comment est-ce que vous le vivez? Comment est-ce que vous le ressentez? Et donc, j'étais dans cette démarche, comment, quelle œuvre trouver pour arriver à faire ce lien et qui ne se termine pas. Et d'un seul coup, je me suis dit, il y a le Omnes Generationes. Et toutes les générations. Et c'est absolument une apothéose vocale et sonore. Et j'exultais dans mon bureau quand j'ai trouvé ça, parce que c'est exactement ce que je voulais passer comme message. J'espère qu'il passera auprès des
auditeurs. J'en suis sûre. Avant qu'on mette, que notre ami Dimitri vous fasse entendre cet extrait que vous avez choisi, je voudrais dire à mes auditeurs, vous avez eu mais combien de centaines d'enfants à qui vous avez apporté la musique? Combien? Des milliers?
Ça fait 15 ans maintenant. 16, je crois, d'ailleurs, cette année. Oui. Beaucoup, oui.
Oui,
beaucoup.
Des milliers. Vraiment, et maintenant, les écoles.
Oui,
et puis vous faites encore autre chose.
Je suis conférencière à la Folle Journée Nantes. J'en vais aussi régulièrement au Grand Palais. Alors là, cet automne, c'était autour de Tintin. Donc, tous les airs lyriques qu'on découvre dans des petites bulles dans les recueils de chez Tintin, d'un seul coup, ils ont pris vie, corps et vie, lors de ce concert. Donc, on était sur un autre registre, mais c'était découvrir l'art lyrique, et puis surtout tous les petits messages cachés d'Hergé à travers ses choix. Donc,
c'est pour dire vraiment cette passion que vous avez d'amener la musique à nos têtes blondes.
Oui, et puis aussi qu'ils se questionnent,
oui,
qu'ils s'interrogent.
Bien sûr.
Pourquoi c'est beau? Parce que beau, c'est un grand mot.
Ah, le fait qu'ils le ressentent.
Qu'ils le ressentent, mais il y a une part d'humilité face à l'œuvre. Et puis aussi... un recul. Le questionnement de la place de cette œuvre dans la vie.
Voilà. Alors, j'aime la musique. On ouvre le livre et on écoute cet extrait que Marianne Bourche a choisi pour vous.
Tous les musiciens, des plus petits aux plus grands, jouent les œuvres de Jean-Sébastien Bach. Dans son recueil du clavier bien tempéré, c'est toute la musique du passé et du présent que chacun retrouve. Une musique intemporelle et universelle. Wolfgang Amadeus Mozart, né 6 ans après la mort de Bach, joue le clavier bien tempéré. Dès son enfance, Ludwig van Beethoven joue aussi le clavier bien tempéré. Pour le jeune Robert Schumann, le clavier bien tempéré reste sa grammaire. Et pour Frédéric Chopin, nul mieux que Jean-Sébastien Bach ne permettait de faire des progrès au piano. Thank you. La musique de Bach est leur pain quotidien. Et vous, aujourd'hui, comment écoutez-vous la musique de Jean-Sébastien Bach? Eh bien, je vous propose de fermer les yeux, d'écouter votre silence intérieur. Mais restez là. Toutes les générations, les anciens, vous aujourd'hui et tous les êtres à venir vont être célébrés dans ce cœur du Magnificat de Jean-Sébastien Bach. Omnes generationes, c'est le titre de cet air. Omnes, qui veut dire toutes, répétées et martelées avec des vocalises éperdues sur le O, ainsi que le mot generationes, qui veut dire génération. Toutes les générations, à travers tous les siècles, sont traversées par la musique de Jean-Sébastien Bach. Un véritable raz-de-marée, instrumental et vocal, un feu d'artifice.
C'était un extrait, on a ouvert le livre « J'aime la musique » raconté par Marianne Bourche, l'offrande musicale de Jean-Sébastien Bach. Et Marianne Bourche avait choisi pour vous ce très bel extrait. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez aller au Collège des Bernardins pour emmener vos enfants. Vous pouvez, mais il faut. Pour les entendre, pour les emmener et qu'ils puissent entendre cette initiation à la musique est vraiment unique, je crois, sur la place de Paris. Les concerts du mercredi.com, c'est le 29 mars à 15h au Bernardin. Et puis, nous, on se quitte, mais sans avoir oublié de vous dire que vous pouvez nous entendre pendant très longtemps sur les podcasts de vos radios chrétiennes. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.